La musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les week-ends. La musique, c'est pas seulement ce qu'on fait sur scène, c'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie, c'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu fais.
La Belle Pop, Vincent Théval.
Bonsoir. À peine estompée la stupéfaction et la tristesse causée par la disparition de David Bowie, deux jours seulement après son 69e anniversaire et la parution du très beau Black Star, je vous propose une édition spéciale de La Belle Pop consacrée à David Bowie dans son plus beau rôle, celui de fil conducteur entre l'underground, les avant-gardes et le grand public. Un fil traversé par une tension particulièrement électrisante dans les années 70, où son appétit semblait sans limite pour les nouveaux sons, les nouvelles façons d'écrire et d'enregistrer, les découvertes littéraires, philosophiques ou plastiques. Une tension permanente qui a offert la plus belle définition de la pop, celle d'un genre aux frontières floues, étiré à l'infini au contact de tous les styles musicaux et de toutes les idées. Un syncrétisme dont David Bowie avait fait son mode opératoire sans renoncer à être accessible. À mes côtés ce soir, le journaliste Olivier Lam, qui a signé mardi dans Libération le beau papier auquel cette émission spéciale emprunte son titre, David Bowie, l'avant-garde en chantant.
Thank you. There were mountains on mountains, and once there were embers, so we
La discographie de David Bowie est un continent très très vaste et il m'a semblé bien sûr qu'il fallait en dérouler un fil particulier pour éviter simplement de la survoler. Et ce fil, c'est voilà le lien que Bowie fait entre l'underground, les avant-gardes, appelez ça comme vous voulez, et le grand public au sein de chansons, souvent au format très très accessible. C'est exactement l'angle qu'avait choisi Olivier Lam dans son article dans Libération mardi. Très beau numéro de Libé consacré à Bowie. Bonsoir Olivier Lam.
Bonsoir.
Alors on s'est échangé quelques mails pour préparer cette émission et bim, jeudi matin, un mail à 8h qui dit « Une ouverture avec Station to Station en entier serait merveilleuse ». C'est ce qu'on vient d'entendre.
C'est ce qu'on vient d'entendre, ouais, parce que bah déjà il y a la métaphore qui est un peu évidente, voilà, d'une gare à l'autre, c'est un bon résumé, je pense, d'une carrière qui est remplie de chefs-d'œuvre, mais qui est surtout un chef-d'œuvre, je trouve, en elle-même, chef-d'œuvre de cohérence, de pertinence, d'audace un peu, qui a cessé un peu d'avancer un peu toujours trop vite pour les fans, pour les, j'ai envie de dire, les exégètes nombreux de David Bowie, qui n'a cessé de ne pas se répéter. Ça, on peut le dire un peu à l'envers, mais une série un peu comme ça de légères diffractions, de légers twists. On peut toujours deviner un peu des moments d'annonce dans les 10 précédents de ce qui va se passer après. On parlait tout à l'heure en antenne, en préparant l'émission, j'étais très content de trouver une idée. Je trouve que les 10 de Bowie, la progression, on entend moins à rebours, c'est-à-dire chaque disque dans lequel on entendrait les influences du précédent. On a l'impression d'entendre les influences des disques du futur, en fait, c'est en permanence. Il est tout le temps en train de préparer quelque chose pour la suite. Et je trouve que ce morceau, qui est un long morceau, qui drague énormément de choses de l'avant-garde des années 70, le plus évident étant le krautrock, le rock allemand de Neu notamment, avec cette manière de jouer le rock comme si c'était une musique éternelle ou une musique, une musique un peu mystique. Et effectivement, c'est dans la durée qu'on comprend quelque chose de l'avant-garde qu'il peut y avoir dans cette musique, je pense.
Alors, il y a une chose qui est très claire à l'écoute de ce disque, mais finalement de tous les autres, c'est qu'on a vite fait de pointer le côté caméléon de David Bowie, d'assigner à chaque album une couleur musicale particulière. Et en fait, sur chacun de ces disques, tout se mélange. Alors, le passé, le présent, mais alors des influences extrêmement différentes, et c'est ce qui fait son extrême modernité. Station to Station, c'est l'album qui sort en 76. Et là, c'est vraiment, on enclenche quelque chose de neuf que Bowie va poursuivre sur les années 70. La deuxième moitié des années 70.
Ouais, c'est un peu l'album où, on va dire l'avant-garde rock de l'époque. Donc de Neu, mais aussi du Velvet Underground, dont il a été un des premiers artistes, un peu célèbre, à dire qu'il était fan du Velvet Underground, qui n'existait plus à cette époque-là. Donc toutes ces influences-là, elles explosent en fait. Alors elles s'étendent germes dans les 10 précédents. On peut écouter Station to Station comme une suite immédiate des 2 ou 3 disques précédents, comme une sorte de continuité du glam qui devient de plus en plus froide. On peut aussi l'écouter comme une annonce effectivement de la trilogie berlinoise, qui est clairement plus dans un son, quelque chose de plus plastique et de plus glacé, dans un rapport qui annonce déjà les années 80. Et c'est impossible en fait de décider de terminer un peu, de se séparer. Donc c'est une époque très intéressante pour Bowie, qui sortait du film de Nicolas Roeg. L'homme qui naît d'ailleurs, je sais plus le titre en français. Il invente ce personnage, le Thin White Duke, qui est une espèce de zombie, de personnage avant-gardiste dans son inhumanité aussi. C'est aussi là un moment d'avant-garde dans sa manière d'être subversif, j'ai envie de dire. C'est l'époque des fameux scandales, des bras levés, des saluts hitlériens, etc. Ce manière de jouer avec le feu. Donc c'est vraiment un moment d'effusion créative. C'est un moment aussi met en place un système en studio, une manière de jouer, on va dire, avec d'apprendre à composer en fait en studio. C'est ça qui est assez très intéressant.
Oui, c'est la vraie rupture avec les disques d'avant, hein. C'est qu'il arrive avec des bribes de mélodies, des bribes harmoniques, des bouts de chansons comme ça. Il laisse son groupe, et notamment la section rythmique, improviser pour ensuite monter et poser sa voix à la fin.
Voilà, en dernier recours, des fois même écrire, griffonner des choses au dernier moment. Donc il y a cette espèce d'effusion créative qui s'entend dans ce disque, qui est un disque de transition, mais tous les albums de Bowie sont des disques de transition, donc c'est assez étonnant. Enfin, je n'arrive pas à penser peut-être, par le tout dernier, peut-être Outside, à des disques qui sont enfermés dans un système, en fait. Il est toujours dans une espèce de flux qui intronise un autre rapport à l'écoute du disque pop. Voilà. Quelque chose de très... une espèce de faisceau de signes à déchiffrer. Voilà.
Alors, ce qui est assez passionnant, c'est la façon qu'il a d'intégrer des choses très différentes et des choses liées à l'avant-garde dans ses propres chansons. Elle va aussi prendre l'aspect d'un dialogue. Et là, il y a un truc assez rigolo quand même avec Kraftwerk, hein, le groupe allemand qui est créé au tout début des années 70, qui est... presque directement cité dans Station to Station, puisque les bruits de train qu'on entend au début de la chanson font écho aux bruits de voiture qu'il y avait sur Autobahn, le premier album de Kraftwerk en 74.
Et alors, album,
oui, bon. Enfin le premier album de leur discographie officielle, ouais. Revisité officiellement. Kraftwerk va répondre, en quelque sorte, sur Trans-Europe Express. On va écouter un très court extrait du morceau de Kraftwerk où vraiment Bowie est cité.
From station to station, back to Düsseldorf City. Meet Iggy Pop and David Bowie. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express.
From station to station, back to Düsseldorf City, meet Iggy Pop and David Bowie, Kraftwerk en 77 sur Trans-Europe Express. Alors, vous l'avez mentionné, Olivier Lam, Kraftwerk, c'est évidemment un des piliers du rock, de la musique allemande des années 70. Il y en a d'autres qui vont profondément influencer Bowie.
Mais d'ailleurs, c'est quand même par Kraftwerk qu'il est rentré dans le... c'est-à-dire que ça a été, je crois, son plus grand choc esthétique de l'époque. Ce qu'on appelle le krautrock, évidemment, avec Kahn, Kraftwerk devant, et puis derrière, Neuil, les groupes de Michael Rutter, Tangerine Dream, Popol Vuh, etc., qui sont des groupes tous très différents les uns des autres, qui ont tous proposé des ruptures... vraiment très net avec le rock anglo-saxon, même si on en retrouvait des choses, pour aller vers des espèces d'abstraction, on peut le dire. Il y a des groupes évidemment du krautrock qui sont plus liés à des choses post-bluesy, heavy metal, etc. Mais enfin, dans le grand sens, les grands groupes, en tout cas les groupes les plus influents, proposaient vraiment quelque chose d'une sorte d'abstraction du rock. Je pense qu'il y a beaucoup fasciné Bowie à cette époque-là. En premier œil, je pense, donc le groupe de Klaus Dinger et Michael Rutter, qui était dans la première mouture de Kraftwerk, à l'époque où c'était un groupe, on va dire, plus rock.
Alors Bowie, il va rapidement trouver un alter ego sa passion pour ces groupes-là, qui est Brian Eno,
ouais.
avec qui il va travailler sur la trilogie dite berlinoise, on va en parler. Et Brian Eno, en 76, lui, il travaille directement avec un de ces groupes allemands qui s'appelle Harmonia. Ils font un disque incroyable.
Harmonia, qui est donc un trio absolument fabuleux dont on vient de rééditer l'intégralité du catalogue en vinyle. Je conseille vraiment aux gens, s'ils tombent là-dessus en magasin, de se ruer dessus. Qui est un groupe donc qui était donc la Réunion de Cluster, qui est un groupe électronique. Donc Hans Joachim Rodelius et Dieter Moebius, qui étaient des deux excentriques absolument vraiment incroyables. Et qui avaient tous les deux des destins musicaux très différents, qui avaient commencé en faisant quelque chose de très bruitiste avec Konrad Schnitzler au tout début des années 70, sous le nom de Cluster avec un K, et ensuite se retrouvant à deux, Cluster avec un C. Je crois que c'est Bowie en premier qui a découvert la musique de Cluster et qui l'a fait découvrir à Eno, et pas le contraire. On aurait tendance à penser que ça s'est fait dans un sens et pas dans l'autre, mais effectivement, Brian Eno était tellement fan, il a déclaré dans des interviews que Cluster était le meilleur groupe du monde, qu'il a été invité donc à Forst en Allemagne par le trio à venir travailler avec eux, et ce qu'il a fait pour un album qui n'est sorti que des années plus tard, malheureusement. L'album de Harmonia, sous le nom de Harmonia 76, est sorti dans les années 90 seulement, puisque pour une raison sans doute parce que les 10 d'Harmonia ne marchaient pas du tout. Et ensuite, il a fait deux albums avec Cluster et Hino, qui sont absolument, qui étaient sous le nom de Cluster et Hino, donc à trois, qui sont absolument merveilleux.
On va écouter un extrait de ce fameux album qui est sorti bien plus tard, qui s'appelle Tracks and Traces. C'est donc la collaboration entre Harmonia et Hino. Écoutez Label Pop sur France Musique avec à l'instant A New Career in a New Town, un extrait de l'album Low de David Bowie, album qui sort en janvier 77. Je suis en compagnie d'Olivier Lam, journaliste pour Libération et The Drone. Olivier, on peut remettre en perspective peut-être cette trilogie, appelons-la la trilogie avec Brian Eno, parce qu'elle n'est pas entièrement berlinoise, contrairement à ce que son briquet l'indique souvent.
Elle est complètement avec Brian Eno.
Exactement.
Même s'il n'est pas le producteur des albums, il faut le dire, parce que c'est, il y a une confusion, parce que comme Brian Eno est connu comme un très grand producteur, il n'a pas produit ses disques, il y a participé de manière extrêmement, il a infusé, on va dire, absolument la musique, de qu'on y entend, mais, pour autant, c'est pas lui qui les a produits, c'est Tony Visconti, fidèle producteur, enfin, qui était en train de devenir le fidèle producteur de Bowie à cette époque-là. Et d'ailleurs, qui n'a pas été, effectivement, trilogique, qui n'a pas intégralement été enregistré à Berlin.
Ça commence ça, en France,
au Château des Rouvilles, ouais, où il avait enregistré déjà, je crois, Pin-Ups.
Album de reprise, ouais.
Non, c'est un moment de rupture nouveau, un moment de rupture, enfin, vraiment, celui-là est, on va dire, historiquement avéré, et vraiment très facile à identifier. C'est le moment où il quitte, vraiment, il fuyait les États-Unis, il fuyait sa propre figure de star, puisqu'il n'en pouvait plus d'être reconnu dans la rue, et pourquoi pas. C'est le moment, effectivement, de la. Comment dire, du début de l'idylle avec Brian Eno, dont il adorait absolument l'album Discrete Music. Je pense pas que Bowie ait jamais vraiment été féru, ou se soit jamais déclaré féru de Roxy Music, dans lequel jouait Eno au début. C'est le moment où il est devenu collectionneur d'art. C'est quand même important, faut le préciser. Et je crois que ce qu'il cherchait à Berlin, c'était un endroit où se réinventer, un endroit où se ressourcer aussi, un endroit où se perdre de nouveau dans autre chose que la cocaïne, puisque c'est, on va dire, c'est le moment de sa première. Il sortait de 4 ou 5 ans d'intense.
Oui, prise de drogue, qui est remplacé par l'alcool.
Remplacé par l'alcool à ce moment-là, mais enfin, voilà, c'est quand même. C'est un autre genre d'intoxication. Et aussi un autre genre d'effusion créative, puisqu'il voulait vraiment faire des albums d'art, en fait, et plus seulement des albums de pop. Et donc, il a tout de suite pensé pour Low, en fait, faire un disque avec une face A avec des chansons et une face B avec le genre de musique. Qu'il avait d'abord tenté de faire pour la musique du film de Nicolas Roeg, mais Nicolas Roeg a préféré prendre des musiques du percussionniste japonais Yamashita. Enfin bref. Donc il déménage. Il faut aussi dire qu'il y avait, j'y pense, la très grande importance du travail sur l'album d'Iggy Pop, The Idiot.
On va y venir.
Qui est sorti plus tard, mais qui a été assez déterminant dans l'espèce de projet sonore du truc.
Brian Eno, il vient avec ses idées un peu folles dans la façon d'enregistrer des instruments, dans la façon de traiter le son. Il vient aussi avec ses cartes, les stratégies obliques. On peut dire un mot de ça.
Est-ce qu'il les utilisait sur Low?
Oui, il les utilisait déjà. Enfin, à partir de Low et Heroes.
C'est un système qui est hérité de John Cage, qu'il avait développé avec son ami peintre dont le nom m'échappe. C'est un scandale, les gens vont écrire des lettres. Bref, qui est un système en fait qui a été conçu pour le moment où les musiciens sont bloqués en studio et qui n'arrivent plus à avancer, et des sortes de propositions artistiques, genre revenir en arrière, aller vers l'avant, espèce de truc plus ou moins dadaïste qu'on peut aussi rapprocher de ce que faisait je sais pas Yoko Ono à l'époque de Fluxus, ce genre de choses, ou John Cage. Voilà, c'était cette idée d'insérer de l'indétermination et du hasard dans la composition musique. Voilà, d'où le nom, les stratégies obliques. You're just a little girl with gray eyes. Never mind, say something. Wait until the crowd cries. Oh, wait until the crowd cries. You're just a little girl with gray eyes. Go deep in your room, you never leave your room. Something deep inside of me, yearning deep inside of me, talking through the gloom. What in the world can you do? What in the world can you do? I'm in the mood for your love, for your love, for your love, for your love. Oh. I'm just a little bit afraid of you, 'cause love will make you cry. But wait until the crowd goes. Oh, wait until the crowd goes.
What in the World, un nouvel extrait de l'album Low de David Bowie qui sort en janvier 77. Très vite, Bowie va enchaîner hein, en déménageant à Berlin et donc en enregistrant dans les studios Hansa la suite qui sera Heroes. On va y venir. Là, on a sur ce morceau un truc vraiment très neuf avec ces petites comme ça zébrures électroniques et ce son très dynamique, presque, mais en même temps un peu sale. Là, on a de quoi nourrir des générations de musiciens quasiment.
Ouais, c'est vraiment une espèce de c'est une mixture très étrange en fait quand on y pense, on l'a entendu, on va dire décliner tellement de fois par la suite qu'on a du mal à entendre ce qu'elle avait de neuf à l'époque. Mais faut vraiment imaginer cette espèce de petite pulsation électronique avec ce son très étrange. Bon, c'est du Inno, on va dire. Pur jus, mais dans ce contexte-là, d'une chanson pop, ces guitares complètement sur le point de. On a l'impression que les jouer sur des cordes de barbelés. Enfin, il y a vraiment un truc très étrange. Faut préciser que c'est un disque qui a été mal aimé, hein, vraiment, à sa sortie, qui a été mal compris. Dont c'est seulement. C'est un disque qui a apparemment influencé la musique, mais qui a vraiment infusé la musique. Et tout le post-punk s'est nourri de cette espèce de. Pas du tout sur le mode de la copie ou du calque, mais vraiment sur le mode il y a vraiment puisé une sorte de liberté par rapport à la forme de la chanson en disant maintenant on s'en fiche de savoir si c'est sexy, si c'est pas sexy, si c'est facile à écouter, pas facile à écouter. L'important c'est de récupérer cette espèce de goût de la rupture et puis un peu des assemblages un peu contre nature. Et évidemment, il y a tous les Talking Heads, il y a toute l'incroyable scène, par exemple la scène new-yorkaise, la scène New Music. Philip Glass était un très grand fan de cet album, compositeur de musique répétitive, et qui en a même fait une version symphonique par la suite, ce qui paraît étrange quand on entend le morceau qu'on vient d'entendre. Je crois que dans les... moment assez déterminant dans l'élaboration de l'eau, il y a le fait que Bowie assistait à la première allemande, je crois, de Music for IT Musicians
de Steve Reich.
Et il y a des morceaux comme ça, il y a des sortes d'idées qui se retrouvent, mais bon, comme toujours chez Bowie, les sources ne se retrouvent jamais. Se trouve jamais à l'identique en fait. C'est toujours déformé, toujours comme passé à travers plusieurs filtres qui font que. On ne sait pas vraiment où on est par rapport à l'influence en question, même si on la sent.
On va revenir au dialogue entre David Bowie et Kraftwerk. Il faut préciser que, on parlait de Station to Station, Bowie a proposé à Kraftwerk de faire la première partie des concerts de la tournée Isolar qui a suivi Station to Station. Le groupe a décliné l'invitation. Et en lieu et place de Kraftwerk, les spectateurs de cette tournée avaient en première partie une diffusion du film de Buñuel, Un chien andalou, avec Radioactivity de Kraftwerk en bande-son. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc, on a entendu Station to Station, avec cette petite référence à Autobahn de Kraftwerk. Kraftwerk qui répondait un peu plus tard en 77 sur Trans-Europe Express, et David Bowie qui, pour Heroes, donc l'album enregistré en 77 et qui paraît dans la foulée, enregistre un très beau morceau qui s'appelle V2 Schneider et qui là est une référence directe à Florian Schneider, le fondateur de Kraftwerk. We'll be right back. Vous écoutez La Belle Pop sur France Musique avec à l'instant Iggy Pop, Fun Time, extrait de l'album The Idiot, qui est enregistré en 76, mais dont la sortie est repoussée pour ne pas faire d'ombre à l'album Low de David Bowie. Album d'Iggy Pop, produit par Bowie et Olivier Lam, qui est un peu la genèse finalement, la matrice presque du travail sur la trilogie avec Ino.
Oui, ils expérimentent beaucoup de choses formelles qu'on retrouve en fait dans les trois albums de la trilogie, c'est étonnant. Notamment cette espèce d'effet sonore sur la caisse claire, on a l'impression qu'elle est doublée par une espèce de truc en plastique, c'est une espèce d'effet de pitch shift en fait, c'est-à-dire de modulation de hauteur, du son, qui est une espèce d'impression très étrange, qui est quelque chose qui a été beaucoup après expérimenté tout au long des années 80. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu par la suite, donc on oublie à quel point ça pouvait être neuf aux oreilles des gens de l'époque. Moi, j'entends vraiment, c'est un peu une version plus brute presque que ce que Bowie a fait avec Low, Heroes, même Ledger. Une version plus proche finalement de ce qu'allait être vraiment le cœur esthétique de, on va dire, du post-punk, hein. Je pense à Joy Division, je pense aux albums de Wire avec cette espèce de côté caverneux mais en même temps très proche, vraiment. C'est vraiment un album matrice en termes de, je trouve, de spectre sonore, quoi.
Et qui pointe une fois de plus l'influence de ce groupe allemand qui est Neu, qu'on a déjà mentionné, qui était à l'œuvre sur Station to Station, et qu'il est à nouveau. On va écouter juste un très court extrait d'une chanson bien plus longue qui s'appelle Lila Engel. Cousinage entre Neuil au début des années 70 et puis la collaboration entre Iggy Pop et David Bowie sur Fun Time. Hein, on a quand même là, voilà.
Faut parler d'un rendez-vous raté avec Michael Rutter, le guitariste de Neuil et Harmonia, que je crois qu'il a été invité à plusieurs reprises par Bowie à venir jouer sur ses disques. Et ça ne s'est pas fait, à tel point qu'il demandait à Carlos Alomar, par exemple, un de ses guitaristes qu'il a longuement accompagné, de jouer comme Michael Rutter. Rutter n'était pas là. Il faut aussi dire aussi que Klaus Dinger, sa manière de chanter, ça a été, je pense, extrêmement important pour l'éducation musicale de John Lydon, enfin, futur chanteur du Sex Pistols. Enfin, tout ça, on ne mesure pas l'impact sur le punk et le post-punk du rock allemand.
On va écouter maintenant un morceau qui n'est sorti à l'époque, au tout début des années 80, qu'au Japon, qui s'appelle Crystal Japan, mais qui a été enregistré vraiment en 79 dans la foulée de la trilogie avec Brian Eno. Un mot sur ce titre, est-ce qu'il dit du rapport entre David Bowie et le Japon, parce qu'on parle de l'Allemagne évidemment, il y a un autre aspect fort avec un autre pays.
Il adorait le Japon. Il y a un morceau sur Heroes, des instrumentaux sur la face B qui s'appelle Moss Garden, qui est une évocation directe de sa passion pour Kyoto, où il aimait passer du temps. Il a fait beaucoup d'allers-retours avec le Japon, il a beaucoup influencé la pop japonaise dans les années 70. Il y a un groupe qui s'appelle Sadistic Mika Band, dans lequel le batteur qui s'appelait Yukihiro Takahashi, qui est le futur chanteur-batteur du Yellow Magic Orchestra, dans le groupe dans lequel on retrouvait aussi Haruo Miyasuno et Ryuichi Sakamoto, avec lesquels il n'a pas directement collaboré musicalement, mais il y a eu des échanges, il y a eu des allers-retours absolument incessants, jusqu'à la rencontre sur le plateau de tournage de Furio de Nakisa Oshima, qui vient de nous quitter aussi. C'est tout ça est absolument incroyable. Il parle aussi lui de l'influence sur sa manière de se mouvoir dans l'espace et de se représenter, puisqu'on sait que Bowie a commencé par la danse. Il disait que ça lui avait enseigné une discipline du mouvement. Voilà. Il y passait du temps. Il faut aussi parler de sa relation, on va dire, artistique et amicale de très longue date avec Masayoshi Sukita, qui était photographe, fameux photographe, qu'il a longuement suivi en tournée, qu'il a beaucoup beaucoup, beaucoup photographié dans les rues de Tokyo, Kyoto, etc. Et qui a évidemment pris la... il y a un livre assez connu qui s'appelle Speed of Life, si vous ne connaissez pas. Très beau livre de photos. Et qui est le photographe qui a pris la photo de la pochette de Heroes, la fameuse, qui est une photo qui a l'air de se réfère évidemment à un art, allemand, l'expressionnisme, etc. Mais qui est pourtant le fait d'un photographe japonais.
On écoute ce titre de David Bowie, Crystal Japan.
Someone to follow, someone to shame us, some brave of won't you be brother, be brother.
J'ai fait sciemment ce retour en arrière à 74, puisqu'on vient d'entendre Big Brother, qui est un extrait de Diamond Dogs, de David Bowie, bien sûr, pour montrer à quel point ce disque en particulier, Diamond Dogs, est non seulement génial, mais vraiment à la croisée d'énormément de choses et dit tout ce qu'il y a à dire finalement sur David Bowie.
Moi, je trouve un disque qui est sous-estimé dans la discographie de Bowie. Je trouve un disque vraiment à la fois très étrange et absolument génial, un peu dur à écouter parce qu'il a une production très un peu boueuse, un peu touffue, etc. Effectivement, on a du mal à distinguer, qui est pas très lisible. Moi, je trouve que c'est un disque très important parce que c'est vraiment le premier album de l'histoire de la pop en fait, qui donne cette impression qu'il y a une totalité derrière les chansons, derrière la collection des chansons qui à laquelle on n'accédera jamais complètement, mais dont on sait qu'on va passer notre vie un peu à l'étudier. C'est un peu un disque dont on sait qu'il va nous aider à apprendre à grandir et à apprendre des choses.
C'est un disque très composite, hein, bah, parce qu'on a des chansons qui ont été composées initialement pour la bande-son d'un spectacle musical autour de 1984, qui ne s'est jamais fait. On a aussi deux petits
Il y a
titres,
des restes de Ziggy Stardust.
Voilà, qui viennent de Ziggy Stardust, ouais. Des morceaux composés spécialement. Ça, c'est très, très mélangé.
C'est très mélangé, mais y compris dans les arrangements. Mais ça fonctionne totalement. Je pense que ça fonctionne parce que, et pourtant, à cette époque-là, il était sous influences diverses et variées de manière extrêmement. Mais il y a une cohérence qui sort de ça malgré tout. Pour moi, c'est vraiment la suite. Bon, c'est la suite immédiate, la plus passionnante de Ziggy Stardust. Ziggy Stardust, c'était un peu l'album où il nous montrait ce que c'était ce que c'était qu'une pop star au deuxième degré, c'est-à-dire une pop star qui se fait référence à l'histoire des pop stars. Et dans Diamond Dogs, il nous emmène dans le monde très étrange où cette star habite. Et là-dedans, la musique est un élément parmi tant d'autres, y compris la drogue, l'alcool, de contrôle, d'aliénation. C'est un disque extrêmement sombre, extrêmement dystopique, angoissant, dans lequel voilà, il nous trimballe dans une espèce de version alternative du monde de George Orwell, puisqu'il ne pouvait pas parler directement. Il ne pouvait pas exploiter directement on va dire, le contenu littéraire du roman de George Orwell, puisque la sœur de George Orwell lui avait refusé l'usage de ça, d'abord pour une comédie musicale. Et c'est vraiment une sorte d'errance dans un monde où tout est fini, en fait, où il ne reste que l'amour et où une espèce de lutte contre l'aliénation. Quoi.
Avec, comme façon de travailler, l'usage du cut-up, qui est là pour le coup hérité directement de William Burroughs. On parlait de lien entre les avant-gardes et le grand public, mais pas uniquement musical. On va écouter le prologue simplement de cet album qui s'appelle Future Legends.
And in the death as the last few corpses lay rotting on the slimy thoroughfare. The shutters lifted an ancient temperance building high on Poacher's Hill, and red mutant eyes gazed down on Hunger City. No more big wheels. Fleas the size of rats sucked on rats the size of cats, and 10,000 peopleoids split into small tribes. Covered in the highest of the sterile skyscrapers, like packs of dogs assaulting the glass fronts of Lovney Avenue, ripping and re-wrapping mink and shiny silver frocks, now leghorns, family badge of sapphire and cracked emerald.
In the day now,
the gear of the diamond dogs. There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart's filthy lessons with her 100 miles to hell. If there was only something between us, if there was only something between us, other than our clothes, something in our sky. Something in our sky, something in our blood, something in our sky. Patty, who's been wearing Miranda's clothes?
Je voulais absolument terminer sur un extrait de Outside, dernier chef-d'œuvre avéré de David Bowie qui sort en 95 et qui fait le lien directement avec Diamond Dogs de 74. D'abord pour c'est des petits intermèdes à moitié parlés, pour l'utilisation du cut-up, mais alors d'une autre façon, puisque David Bowie retravaille avec Brian Eno sur Outside et ils mettent au point une sorte de logiciel pour générer des paroles à partir de mots qui rentrent dedans. Voilà, ça c'était pour le lien à quelques 20 années d'écart entre les deux albums et voir les correspondances entre différents albums de David Bowie. Merci beaucoup, on a été évidemment un peu bavard, mais c'était nécessaire et l'œuvre de Bowie est tellement large que c'est évidemment un défi d'en parler.
On
n'en finit
plus, on n'a pas fini de la décortiquer. Ça,
je renvoie, merci encore Olivier Lam, et je renvoie les auditeurs sur un livre excellent signé Mathieu Thibault qui s'appelle David Bowie, l'avant-garde pop, qui est paru aux éditions Le Mot, Elle Reste, et qui prend tous les albums les uns après les autres. Au générique de Label Pop ce soir, Marie Groux à la réalisation, José Bernays à la technique avec Emmanuel Rose, Sophie Salio-Marie Audroy et Jean-René Bonissant pour le site. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous dimanche prochain à 20h30.